France Culture, bienvenue à vous, il est midi et demi. Tout de suite le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. 10 jours après les élections européennes, les Danois retournent aux urnes aujourd'hui, cette fois-ci pour élire leurs députés. La campagne a été courte, elle s'est essentiellement focalisée autour de 3 thèmes, le climat, l'avenir du modèle social et l'immigration. Tous les derniers sondages prévoient une victoire de la gauche avec le retour au pouvoir des sociaux-démocrates.
Au Soudan, les généraux au pouvoir se sont dit ouverts ce matin aux négociations sans restriction.
Ils les avaient pourtant totalement rejetés la veille, et ce dans un contexte de répression de la contestation populaire qui a fait des dizaines de morts depuis le début de la semaine.
Le groupe automobile Renault envisage des poursuites contre son ancien patron emblématique, Carlos Ghosn, après avoir révélé hier soir qu'il avait engagé 11 millions d'euros de dépenses suspectes.
Et puis une enquête préliminaire a également été ouverte après une plainte visant l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, de même que le criminologue Alain Bauer, pour des contrats dont ils auraient bénéficié au sein de la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan. Enfin, depuis près de 3 mois, des dizaines de services d'urgence sont touchés par des mouvements de grève. Une manifestation des urgentistes est prévue demain à Paris, et pour en parler, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Olivier Youinou, infirmier anesthésiste et co-secrétaire de Sud Santé APHP. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
La langue peut-elle vraiment être sexiste? On va en parler avec nos deux invités, les linguistes Daniel Manès et l'historien du français, plus précisément Gilles Siouffi. Ils ont ouvert cette réflexion à partir des débats controverses autour de l'écriture inclusive, sur lequel ils reviendront également.
Merci et à tout à l'heure. Y aura-t-il quelque chose de pourri au royaume de Danemark alors que les électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire un nouveau parlement et donc un prochain gouvernement ? Une tendance semble se dessiner assez clairement, l'effondrement de moitié du vote en faveur du parti du peuple danois. Selon les derniers sondages, la formation anti-immigration d'extrême droite devrait recueillir autour de 11% des suffrages, soit 10 points de moins que lors des dernières élections. Dit autrement, ce scrutin pourrait acter la fin de près de 2 décennies de croissance constante de cette formation eurosceptique, incontournable dans la politique du pays depuis notamment qu'elle a chèrement monnayé son soutien au gouvernement libéraux en héritant de la présidence du Parlement. Sauf que parmi les raisons qui expliquent très probablement cette chute vertigineuse, on trouve en réalité non seulement le manque d'unité au sein des populistes avec l'apparition de 2 autres partis d'extrême droite, opposition encore plus radicale, mais aussi et surtout la percée des sociaux-démocrates qui, tout en promettant de défendre l'État-providence, devraient poursuivre une politique des étrangers restrictive telle qu'elle avait été dictée justement par le Parti populaire danois. Ou dit autrement, le léger virage à gauche attendu aujourd'hui au Danemark ne devrait pas remettre en cause la rigueur migratoire. Les précisions de notre correspondante Anne-Françoise Hiver.
Il faudrait un miracle pour que Lars Løkke Rasmussen, le patron des libéraux à la tête du gouvernement depuis 2015, puisse conserver son poste. Peu importe, sa première place aux européennes le 26 mai, ses alliés sont eux en très mauvaise posture, le parti du peuple danois notamment, grand perdant annoncé de ce scrutin, la formation de droite, souverainiste, europhobe et climato-sceptique pourrait voir son score divisé de moitié ce soir. Mise en difficulté par le Brexit, pénalisée sur le climat, mais surtout concurrencée sur la question de l'immigration par 2 petites formations d'extrême droite d'abord, mais aussi par les sociaux-démocrates. Une formation dirigée depuis 2015 par Mette Frederiksen, 41 ans, à l'origine du recentrage idéologique et stratégique de son parti. Fini la tentation néolibérale, les sociaux-démocrates font campagne sur la défense de l'État-providence. Fini aussi la politique généreuse de l'asile. Mette Frederiksen s'est engagée à maintenir les mesures ultra-restrictives adoptées par le gouvernement sortant. Objectif, regagner l'électorat populaire, un repositionnement controversé auprès de certains électeurs de gauche qui devraient reporter leur voix vers le centre, l'extrême gauche et les partis écolos. Résultat, le bloc de gauche était crédité de 55% des voix ce matin contre 45% pour la droite.
Une semaine après avoir demandé officiellement à Rome de s'expliquer sur la détérioration de ses comptes publics, la Commission européenne a recommandé ce matin d'ouvrir une procédure pour déficit excessif contre l'Italie en raison de son énorme dette, largement en dehors des clous européens, et que la coalition populiste au pouvoir pourrait encore aggraver. Une telle procédure peut aboutir à terme à des sanctions allant jusqu'à 0,2% du produit intérieur brut italien, soit environ 3,5 milliards d'euros. Alors pour éviter accepter un tel scénario. Le président du Conseil italien avait pourtant mis sa démission dans la balance, c'était lundi dernier, afin d'obtenir de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles, les deux parties de la coalition, un mandat de négociation avec l'UE. Seulement voilà, depuis que le parti de Matteo Salvini est arrivé en tête des dernières européennes, il ne cesse d'intensifier ses attaques contre Bruxelles. La dernière en date concerne d'ailleurs le projet de fusion entre Renault d'un côté et puis le constructeur italo-américain Fiat Chrysler de l'autre, un dossier dont le déroulement prouverait, selon la Ligue, le traitement injuste réservé à l'Italie par la Commission européenne. En particulier, le parti d'extrême droite juge que l'État français devrait céder sa participation dans Renault pour réduire son déficit budgétaire au lieu de négocier des postes au conseil d'administration d'une entreprise essentiellement privée. De son côté, le conseil d'administration du groupe aux Losanges, qui se réunissait hier pour étudier ce projet de fusion, a lui pris connaissance des conclusions définitives de l'audit interne mené conjointement depuis des mois avec son allié japonais Nissan. Le constructeur français envisage des poursuites contre son ancien patron emblématique Carlos Ghosn après avoir révélé qu'il avait engagé 11 millions d'euros de dépenses suspectes au sein d'une filiale aux Pays-Bas. Ou quand Renault finit ainsi le ménage dans ses comptes. Sauf que la marque aux Losanges, qui espérait sans doute clore définitivement ce chapitre, a vu une nouvelle page s'ouvrir hier après qu'une enquête préliminaire a été ouverte visant l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le criminologue Alain Bauer. Tous deux sont soupçonnés d'avoir perçu des fonds potentiellement suspects via la filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Alors ces deux nouvelles affaires tournent donc autour de cette fameuse filiale aux Pays-Bas. De quoi s'agit-il, Hakim ?
Alors cette filiale, c'est RNDV. Elle était créée en 2001 par Carlos Ghosn lui-même. Initialement, elle servait surtout à titre opérationnel, notamment pour acheter des pièces pour Nissan et Renault. Mais ces dernières années, elle a surtout servi à cacher notamment les dividendes des grands dirigeants de Renault. Désormais, c'est Nissan qui accuse Carlos Ghosn d'avoir détourné une partie de ses sommes à des fins personnelles. Il faut dire qu'aux Pays-Bas, la fiscalité est très avantageuse. C'est pourquoi de grands groupes s'y sont également installés. Il y a notamment Airbus, qui a son siège social, mais aussi le groupe Louis Dreyfus. D'autres ont leurs filiales, comme par exemple Altran, Thales ou Total. Ce sont pas moins de 1000 entreprises françaises qui sont installées directement aux Pays-Bas. Fiscalité très avantageuse, avec notamment ce qu'on appelle le rolling. Les entreprises peuvent négocier directement sur une durée déterminée de 4 à 5 ans, le montant des impôts qu'elles devront payer au fisc néerlandais. Cela est légal et parfaitement organisé et orchestré par l'administration hollandaise. L'impôt sur les sociétés est lui aussi très intéressant. Alors même s'il n'atteint pas les 12,5% de l'Irlande, il reste toutefois deux fois inférieur à celui de la France. Alors si pour l'instant, d'après l'OCDE, les Pays-Bas ne font pas partie des paradis fiscaux, selon l'ONG Justice Tax Work, les Pays-Bas feraient partie des 80 pays qui auraient une fiscalité, on va dire plutôt, très opaque.
Merci Hakim Kasmi. Des perquisitions sont menées depuis ce matin au domicile du maire de Lyon, Gérard Collomb, et à la mairie dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement de fonds. Dans son édition datée de ce mercredi, Le Canard Enchaîné publie un article dans lequel il fait état de l'ouverture d'une enquête préliminaire du parquet national financier sur de possibles détournements de fonds publics au profit de l'ancienne campagne de compagne de Gérard Collomb. La Française des Jeux sera privatisée d'ici la fin de l'année si les conditions de marché le permettent. Déclaration ce matin du ministre de l'Économie et des Finances. Prié de dire combien l'État espérait tirer de cette cession, Bruno Le Maire a déclaré « ça peut toujours être quelques milliards d'euros ». Rappelons que le principe de cette privatisation de la Française des Jeux a été approuvé dans le cadre de la loi Pacte, en même temps que celui d'ADP. En revanche, et s'agissant de la société gestionnaire des aéroports de Paris, le lancement de l'opération a été reporté après le feu vert donné par le Conseil constitutionnel à une démarche parlementaire visant à organiser un référendum sur le désengagement de l'État de la société. De la Française des Jeux au système de redistribution à la française, dans un pays où les inégalités se déclinent à l'envi quand les 1% les plus aisés récupèrent 6% de l'ensemble des revenus des ménages, 8,5 millions de pauvres vivent aujourd'hui avec moins de 1026 euros par mois. Dans le dernier rapport annuel de l'Observatoire sur les inégalités publié hier, il ressort qu'un million de personnes exerçant un emploi disposent pourtant d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Mais aussi que la précarité de l'emploi augmente depuis 3 ans et constitue un phénomène nouveau et inquiétant. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors évidemment, 6 mois après le début du mouvement des Gilets jaunes, ce rapport était attendu dans la mesure où il se fait se croiser au fond toutes les catégories sociales, sans exception, des plus précaires aux plus favorisés. Que nous apprend-il du modèle social à la française dont on sait, Annabelle, qu'il est loin d'être le plus inégalitaire, mais qui suscite malgré tout de nombreuses frustrations.
Oui, la France, grâce à ses impôts élevés qui constituent le pilier de son modèle social, reste l'un des pays où la redistribution des revenus est la plus forte. Mais cela revient à dire que nous vivons dans l'un des pays les moins pires en Europe sur le terrain des inégalités. Et le moins pire, vous en conviendrez Thomas, ce n'est pas rassurant. Car la précarité de l'emploi augmente de façon inquiétante depuis 2014 dans notre pays et le phénomène s'accélère. Un actif sur quatre, un quart de la France qui travaille, se trouve en situation de mal-emploi, c'est-à-dire en CDD, en intérim ou encore au chômage. On peut y rajouter les travailleurs à leur compte, les indépendants, les auto-entrepreneurs et les temps partiels subis. C'est la France de l'insécurité sociale où près d'un million de personnes qui travaillent disposent d'un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté fixé autour des 850 euros par mois. Cette précarité sociale s'accompagne de surcroît de conditions de travail à la limite du supportable, grande flexibilité horaire, horaire décalé ou rythme contraint. Au bas de l'échelle de ces travailleurs pauvres, on y retrouve ceux que l'on appelle désormais les ubérisés, ce qui ne fait que nous rappeler que déréguler le travail est le facteur aggravant.
Alors ce rapport est extrêmement dense, il croise les différentes catégories d'âge, de sexe, de niveau d'études, de zones géographiques. Que faut-il en retenir, Annabelle ?
Alors dans ce rapport, on y constate que depuis 20 ans, le niveau de vie des plus âgés continue de progresser, plus 15%, quand celui des 19-29 ans stagne. Cela s'explique en grande partie par le patrimoine. Les femmes seules, mères de famille, sont particulièrement exposées. Les non-diplômés, hommes et femmes également. Sur le clivage ville-campagne, dont on avait beaucoup parlé avec les Gilets jaunes, ce n'est pas aussi simple. On remarque dans ce rapport que c'est dans les villes que les écarts de revenus sont les plus grands. Les villes concentrent tous les extrêmes, les plus riches des riches et les plus pauvres des pauvres. Quand les revenus en province, certes, tendent à être plus bas, mais tendent surtout à s'améliorer et puis surtout à être plus homogènes, ce qui change beaucoup de choses en termes de qualité de vie.
Merci Annabelle Grelier. Alors si la fièvre des gilets jaunes tend à diminuer au fil des semaines et des mois, pour autant, la contestation sociale n'en reste pas moins élevée. Quand hier encore plusieurs milliers de cheminots manifestaient à Paris contre la réforme ferroviaire et la dégradation du climat social dans l'entreprise, une dizaine de syndicats enseignantes, eux, d'ores et déjà appelaient une grève de la surveillance des épreuves de philo le 17 juin prochain, premier jour du baccalauréat, pour réclamer tout à la fois une revalorisation de leur rémunération et le retrait des dernières réformes sur l'éducation. Et puis, que dire à présent de la situation des urgentistes ? Voilà près de 3 mois que le trop grand nombre de consultations aux urgences provoque des débrayages doublés d'une recrudescence d'arrêts maladie chez les soignants. Une manifestation est prévue demain dans la capitale, en plein congrès des urgentistes, où d'ailleurs la ministre de la Santé, Madame Buzyn, n'a toujours pas confirmé sa venue. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Olivier Youinou, infirmier anesthésiste et co-secrétaire de Sud Santé à PHP. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors fait quasi inédit, dans la nuit de lundi à mardi, le personnel des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris n'est pas venu travailler. D'habitude, les infirmiers, les aides-soignants sont assignés, autrement dit, ils travaillent même en grève. Mais là, non, ils se sont mis en arrêt maladie, c'est donc le personnel de jour qui a fait le travail. Ce nouveau mode d'action, le fait de ne pas venir travailler du tout, est-ce que c'est le bon moyen pour faire bouger les choses ?
On n'en sait absolument rien parce qu'il faudra regarder au lendemain de cette nouvelle façon de montrer son désaccord. Ce que l'on peut constater par contre, hein, même si c'est pas tout à fait ce que nous on préconise syndicalement en mode de lutte, c'est que il y a une telle exaspération, il y a un tel ras-le-bol, un tel mécontentement chez les soignants des urgences que ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que celui-ci, parce que ça fait 3 mois qu'ils sont en grève, qu'ils ont toujours pas vu ni la ministre ni un proche de ses collaborateurs pour négocier sur des revendications qui sont clairement connues de tous, hein. Une augmentation des effectifs dans leur service pour continuer à prendre correctement les patients en charge et une augmentation de leur salaire, parce que si c'est pas le cas, les effectifs ne seront que sur du papier. On n'arrive pas à recruter avec les niveaux de salaire que l'on propose aux jeunes soignants aujourd'hui. Donc ces revendications-là sont connues, la ministre ne les entend pas, la ministre traite les agents par le mépris, et il y a un ras-le-bol qui prend aujourd'hui cette forme-là. Alors je précise simplement que ils ne se sont pas mis en arrêt maladie. Il y a des médecins qui ont constaté une souffrance au travail et qui ont jugé qu'il fallait arrêter ces personnes-là. Donc la situation est dramatique, la ministre a la balle dans son camp. Il y a des choses plus graves qui s'annoncent. Moi j'apprends là sur les réseaux sociaux que certains de mes collègues envisagent de s'injecter de l'insuline demain devant le ministère si jamais ils ne sont pas reçus à hauteur. C'est grave ce qui est en train de se passer, et la ministre doit faire autre chose que d'intervenir ou pas d'ailleurs au congrès des urgentistes. Elle doit recevoir la délégation de ce mouvement et négocier avec eux sur les trois revendications qu'ils portent.
Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a parlé hier d'un dévoiement concernant cette forme d'action. Pour elle, ça accroît la fatigue des autres. C'est vrai que les collègues, dans ce cas-là, se substituent aux grévistes. Est-ce que ça ne risque pas de créer des problèmes au sein même de l'hôpital?
Oui. Il y a des taux de participation à cette grève qui font que les collègues qui sont au boulot sont souvent eux-mêmes assignés et ils sont grévistes aussi et partagent les mêmes revendications que les collègues qui aujourd'hui se sont mis en arrêt de travail. Donc il ne faut pas qu'elle joue la division parce que les urgentistes sont mobilisés, ils sont mobilisés dans l'unité et ils sont solidaires les uns des autres. On a tous connu ça, hein, des grèves qui sont très compliquées dans nos établissements de santé dans la mesure où on peut pas l'exprimer parce qu'on est assigné à un service minimum et que le service minimum c'est des effectifs que l'on a tous les jours, donc on est assigné, on est gréviste mais on doit travailler. On n'en peut plus et la ministre joue de cette situation-là. Donc en rassurant la population, ils sont en grève mais ils continuent de soigner. Stop, ça suffit.
Monsieur Youinou, oui. La ministre a annoncé la formation de 400 urgentistes par an dans les années à venir. Est-ce que ça suffira à limiter les tensions?
Non. Non. Aujourd'hui, il y a un tel retard de pris sur les effectifs notamment, que sur la seule assistance publique de Paris, il faudrait créer 1200 postes d'urgentistes pour que on revienne à niveau par rapport à l'augmentation de l'activité que l'on connaît depuis de trop nombreuses années. Donc il faut prendre très au sérieux ce qui est en train de se faire. Je crois que la population est très sensible à cette question-là. La population ne partagerait pas si elle était entendue, si on lui demandait ce qu'elle pensait. Elle ne partagerait pas la politique que mène aujourd'hui la ministre de la Santé sur les urgences et sur l'hôpital dans sa globalité. Ils sont attachés à ce service public-là, peut-être plus chèrement qu'à tous les autres. Et on a le soutien de la population. On a un capital sympathie dans cette population-là. Les Français savent très bien qu'on est à leur service tous les jours et qu'on donne plus que l'on devrait. La ministre doit le mesurer et doit recruter à hauteur des besoins pour qu'on continue de prendre dans la qualité et la sécurité ses patients. Et puis elle doit revoir les politiques salariales et revoir les grilles des salaires des soignants, parce que c'est intolérable. On est classé 26e sur 29 des pays de l'OCDE sur le paiement de nos soignants. Il est temps de rattraper ce retard là aussi.
Bien, merci. Merci Olivier Youinou, infirmier, je le rappelle, anesthésiste et co-secrétaire de Sud Santé APHP, d'avoir répondu à notre invitation. 2018, année record pour l'agriculture biologique en France. Cela fait maintenant plusieurs années déjà que les chiffres de la bio ne cessent d'augmenter. Et l'année dernière ne fait pas exception, bien au contraire, puisque ce sont désormais 7,5% des terres agricoles qui sont aujourd'hui couvertes par l'agriculture biologique. Cela concerne près de 10% des agriculteurs, voilà pour la production. Mais évidemment, la distribution, la transformation et bien sûr la consommation ne sont pas en reste. Le nombre d'entreprises de transformation de produits bio a augmenté de 12%. Et puis surtout, ce marché grimpe désormais à plus de 9 milliards d'euros. Reste qu'avec l'augmentation de la demande comme de la production, eh bien d'autres questions traversent à présent les acteurs de la filière concernant notamment le bio-industriel. Les explications d'Anne Lorchouin.
La bio n'est plus un marché de niche, la demande est croissante, le marché de produits bio en France dépasse les 9 milliards d'euros et la production, entendez les agriculteurs qui se convertissent, suit une tendance elle aussi en plein essor. Si les acteurs de la filière sont rassurés par les chiffres des importations de produits bio, Elle stagne, ce qui signifie une volonté des consommateurs de manger à la fois bio et français. La question de la production à très grande échelle se pose désormais aux acteurs de la filière, car qui dit production en masse dit souvent industrialisation. Or, ça n'est pas ce que souhaitent les consommateurs, selon Florent Gull, directeur de l'agence bio.
Oui, on voit bien que la demande sociétale elle est très forte de dire « oui, le bio nous intéresse fortement, mais pas n'importe quel bio. On veut des produits bio issus d'un respect de l'environnement, du bien-être animal et de l'éthique. Donc une demande finalement de commerce équitable en plus de commerce bio et de local. Donc c'est beaucoup de contraintes, mais tant mieux parce que du coup on voit bien que la production, la transformation et une partie de la distribution aujourd'hui tentent de répondre à ces questions avec force aussi parce que de toute façon, c'est ça que demandent les consommateurs, donc c'est ça qu'il faut faire.
Cette question du bio-industriel s'est cristallisée ces dernières semaines autour de celle des tomates en serre chauffée. Une hérésie pour certains, un ajustement acceptable pour d'autres. Le président de l'agence bio, Philippe Henry.
Moi, je pense que les positions des uns et des autres ne sont pas si éloignées que ça. Effectivement, il ne faut pas produire de légumes à contre-saison. Aujourd'hui, personne ne propose de produire des légumes à contre-saison. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Des tomates 12 mois sur 12 produites en France, ben non. Si on est attentif à la construction des filières et si on diversifie les choses, naturellement, on ne pourra pas industrialiser.
Mais plus la filière des acteurs du bio se développera, plus les avis seront susceptibles de diverger sur la question, plus il faudra trouver de compromis.
Voilà, plus de 9 milliards d'euros, c'est donc ce que représente aujourd'hui le marché de la bio en France. Et c'est aussi le montant record de vente d'armes françaises vendues à l'étranger l'an dernier, en augmentation de 30% par rapport à 2017. La moitié des commandes ont émané du Moyen-Orient, en particulier le Qatar, mais aussi l'Arabie Saoudite, accusée de crimes de guerre, ou bien encore l'Égypte, régulièrement pointée du doigt pour sa répression musclée vis-à-vis de la population. L'occasion donc pour les ONG, qui depuis de nombreux mois déjà dénoncent l'emploi d'armes françaises par les belligérants engagés au Yémen de renouveler leurs critiques. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, à Portsmouth, 16 pays dont la France célèbrent aujourd'hui le 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 44, étape clé de la libération de l'Europe du joug nazi. Louise Baudet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes sur place, les célébrations ont commencé ce matin et pour commémorer donc cette journée historique, tous les pays représentés ont adopté une déclaration pour faire en sorte que les sacrifices du passé ne soient jamais vains et jamais oubliés.
Oui, le sacrifice des soldats dont les tout premiers sont partis d'ici pour les côtes normandes dans la nuit du 5 au 6 juin 44. Portsmouth, c'est vous le savez, le lieu emblématique du D-Day de ce côté-ci de la Manche, point névralgique de l'opération Overlord et symbole aujourd'hui de l'amitié entre les 15 nations alliées. La mémoire de ces combattants pour la liberté saluée par les officiels, chefs d'État et de gouvernement présents, mais aussi côté public où je me trouve. J'ai rencontré tout à l'heure Suzanne, arrivée hier du Hertfordshire. C'est à plusieurs heures d'ici en voiture. Elle tenait absolument à être là pour saluer cette mémoire des combattants. Journée très particulière aussi pour Kerry et Robbie, deux sœurs arrivées la semaine dernière de l'Oregon aux États-Unis. Elles accompagnent leur père qui est un ancien Marine américain, l'un des 300 vétérans installés de l'autre côté de la clôture. La cérémonie, eh bien, tout le monde peut la suivre grâce à des écrans géants installés ici sur le South Sea Common, vaste esplanade en bord de mer, dans une ambiance de pique-nique dominical. Chacun a amené son pliant ou son plaid installé sur la pelouse. Il y a des manèges juste à côté en ce lieu qui d'habitude accueille les familles le week-end. La cérémonie a donc débuté il y a une demi-heure avec l'hymne national britannique, repris en chœur par le public qui a ovationné la reine, apparue tout de rose vêtue, chapeau compris. Au programme désormais, eh bien, des témoignages de vétérans, mais aussi, vous l'entendez derrière moi, des chants, des danses, des extraits de discours de Churchill et Eisenhower. On vient d'entendre le président américain Donald Trump et un peu plus tôt le Canadien Justin Trudeau. Emmanuel Macron lira dans quelques minutes la dernière lettre d'Henri Fertet à ses parents, Henri Fertet, jeune résistant de 16 ans, fusillé par les nazis. Et puis, c'est Elisabeth II, bien sûr, qui clôturera la cérémonie dans une petite heure. Puis les canons retentiront et on assistera à un défilé aérien de 25 avions militaires britanniques, dont les célèbres Spitfire et Hurricane de la Seconde Guerre mondiale.
Merci Louise Baudet en direct de Portsmouth, ainsi qu'à Stéphane Beaufils pour les moyens techniques. Et puis j'ajoute qu'à l'issue de cette cérémonie, Donald Trump lui conclura sa visite d'État au Royaume-Uni en rejoignant son complexe hôtelier dédié au golf en Irlande avant de débarquer demain en France pour la suite des commémorations du débarquement. Au Soudan, le mouvement de contestation s'est dit déterminé ce matin à poursuivre la mobilisation, rejetant l'appel à des élections par les militaires au pouvoir, et ce deux jours après la dispersion sanglante d'un sit-in de manifestants à Khartoum qualifié de massacre. Le bilan de la répression s'est encore alourdi hier à 60 morts. Il faut dire que les forces de sécurité n'ont pas fait que démanteler le sit-in. Elles ont aussi mené des opérations dans d'autres quartiers et même contre des institutions comme les hôpitaux. Quoi qu'il en soit, depuis ce matin, des coups de feu se font encore entendre dans les rues de la capitale Khartoum. De leur côté, les généraux au pouvoir se sont dit ouverts à des négociations sans restriction. Le cardinal australien George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, a contesté ce matin en appel sa condamnation à 6 ans de prison pour des agressions sexuelles contre des enfants de cœur en 1996 et 97. À 77 ans, l'ancien archevêque de Melbourne et Sydney, ex-responsable par ailleurs des finances du Saint-Siège, est aujourd'hui le plus haut responsable de l'Église catholique condamné pour pédophilie. On termine avec un mot de météo. Le temps de cet après-midi sera marqué par un passage pluvieux et même des orages remontant depuis le sud-ouest vers le centre et le nord du pays. Plus à l'ouest de la Bretagne et des Charentes jusqu'aux régions proches de la Manche, la journée sera moins agitée mais tout de même ponctuée d'ondées. En revanche, les éclaircies seront plus larges sur la façade atlantique. Quant aux températures, elles accuseront une baisse sensible de 15 à 33 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.